Bonsoir. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer en prière. Seigneur, je te demande de m'utiliser ce soir pour parler à ton peuple. Utilise-moi comme un outil, Seigneur, pour glorifier ta personne. Et parle à chacun d'une façon personnelle et particulière ce soir. Je te demande au nom de ton Fils. Amen. Donc ce soir, je vais vous parler entre autres de la louange, mais pour ça, je vais me baser particulièrement sur Ésaïe 12. Donc si vous voulez, je vous invite à tourner. Donc Ésaïe 12 au verset 1er. En ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée. Et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Donc, je vous fais un peu un historique. À ce moment-là, on est à l'époque où le royaume est divisé en deux. Il y a le nord et il y a le sud. Tout simplement, le royaume d'Israël au nord, avec comme capitale Samarie, et le royaume de Juda, au sud, avec Jérusalem comme capitale. Et devant un peuple qui se détourne constamment de Dieu, Ésaïe prophétise la colère de Dieu contre son peuple. Il explique que Dieu va utiliser les ennemis du peuple hébreu comme verge de sa fureur, même si eux aussi vont payer pour leur désobéissance. Il dit un peu avant, au chapitre 10, « Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. » La verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Puis il ajoute un peu plus loin, « Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Mais ensuite, Ésaïe parle aussi d'espoir. Il parle de l'espoir qu'on a en l'Éternel. Puis c'est dans ce contexte-là qu'on arrive au chapitre 12, que d'ailleurs plusieurs observateurs vont considérer comme un psaume. Et donc, si on commence par le début, « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. » Je vous propose qu'on lise la version Darby, parce que c'est une version qu'on m'a recommandée pour avoir souvent une tendance à être plus près du mot à mot. Donc, de la façon de la version Darby, ça dit « Je te célébrerai, Éternel, car tu étais en colère contre moi, et ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. » Première des choses, louer l'Éternel. C'est ici une marche à suivre. L'auteur dit pas « tu pourras dire en ce jour-là », c'est « tu diras en ce jour-là ». L'accent est tout de suite mis sur la louange. Puis la raison de louer l'Éternel, c'est à cause d'une suite d'événements. Dieu est en colère contre moi, sa colère se détourne, puis me console. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup la version Darby, c'est l'utilisation du verbe « détourner ». Pourquoi? Parce que, justement, ça explique pourquoi la colère de Dieu est apaisée. Parce que quand on dit apaiser, il y a quelque chose qui a apaisé ça. Mais il y a un détour, ça continue. C'est pas un arrêt. Dieu a détourné sa colère qu'on méritait. Dieu est juste. Alors, elle est détournée, mais dans le texte, il dit pas vers quoi elle est détournée, cette colère-là. Vers qui elle est détournée. Parce qu'il faut qu'il y ait une raison juste et valable que la colère de Dieu s'apaise. Il n'y a que son infini amour qui peut nous la donner, et en nous la donnant par le salut. Qui nous donne, puis comment on nous donne ce salut-là? Bien, la réponse va venir plus tard. On ne sait pas tout à l'époque. On ne sait pas encore nécessairement. La seule chose qu'on sait, par contre, c'est que ce salut-là va venir de Dieu. Et c'est pour cette raison-là qu'on peut affirmer, en continuant au verset 2, pardon, « Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Parce que Dieu a à sa possession la seule véritable réponse du salut. Puis c'est une autre raison de le louer, c'est une autre raison de faire de la louange. Parce que c'est lui, c'est par lui que je suis sauvé. Puis évidemment, il est le créateur de la solution, donc il est étroitement lié à cette solution-là, la solution du salut. Ensuite, il nous donne un peu un mode d'emploi au verset 3. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Alors que juste avant, on était au singulier, hein, « Tu diras ce jour-là, je te loue, ô Éternel », on tombe au « vous ». On passe de quelque chose de personnel, on se souvient, « Dieu en colère contre moi », sa colère s'apaise, « Il me console, moi, et il me sauve, moi », à quelque chose qui n'est pas réservé qu'à une seule personne. Je pense que ça montre bien ici le caractère du salut. Je suis sauvé de mes péchés. Puis le salut, il est total et complet pour moi. Mais il n'est pas seulement pour moi, il est aussi pour d'autres personnes qui eux aussi ont ce même salut-là. Et ce salut-là est complet et parfait pour eux aussi. La tâche est de puiser cette eau du salut. Puis un geste qui est fait, notons-le, avec joie. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Aussi, il arrive quelque chose de très intéressant, c'est l'eau. L'eau des sources du salut. D'ailleurs, ce ne sera pas la dernière fois qu'on va entendre parler de l'eau dans la Bible. Alors, si vous voulez, tourner avec moi dans Jean 4. Donc, Jean 4, verset 5. Il, Jésus, arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. On continue un petit peu plus loin. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu, la version Darby traduit « Si tu savais quel don Dieu veut te faire ». Ici, Jésus parle du même don que dans Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle ». En Jésus-Christ, notre Seigneur. À plus forte raison, la suite, quand il dit et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Parce que Jésus est le salut. C'est lui la source du salut. Mais elle ne comprend pas. Et Jésus lui donne une plus grande partie de la réponse au verset 13. Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Bref, le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la Bible est conséquente jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez, tournez avec moi dans Apocalypse 21. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône, il se nomme plus tard, puis on va comprendre que c'est Jésus, on va savoir que c'est Jésus, dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Puis il continue et il insiste au chapitre 22, verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » On continue au verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif « Vienne !» Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je pense que là, le sujet de ma louange est clair. J'ai reçu gratuitement le salut. Puis celui qui me donne ce salut, c'est Dieu, par son Fils. Par son Fils, l'Emmanuel, Dieu avec nous, le Messie. Ce caractère-là gratuit du don de Dieu est vraiment quelque chose de très important. Et je pense que le comprendre nous amène vraiment à le louer. Tourne dans Ésaïe 12. J'aurais dû vous dire de garder un petit doigt dessus, je m'en excuse. Donc au verset 3, le verset 3 dans le fond c'était le verset pivot, mais là les versets 4, 5 et 6, c'est la louange à l'Éternel, le partage de la grandeur de Dieu à tous les peuples de la terre. Verset 4, « Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. » Ce qui change tout, c'est que ça commence par « vous direz en ce jour-là ». Donc, louez l'Éternel, cette fois-ci, c'est pas seulement nous qui le fait comme au verset 1, alors qu'on disait « je te loue, Éternel ». Là, maintenant, c'est nous, dans le fond, qui on dit « louez l'Éternel », c'est maintenant à notre tour. C'est maintenant notre tour de dire aux gens, vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, on le dit aux autres. Pourquoi? Parce que on connaît le pourquoi maintenant. On connaît la raison de la louange. Parce qu'on se souvient, on a puisé de l'eau du salut. C'est maintenant notre tour, maintenant qu'on connaît le pourquoi, d'inviter les autres à louer eux aussi et qu'eux aussi publient les œuvres de l'Éternel. Qu'ils fassent connaître qui est Dieu et ce qu'il fait. Verset 5, « Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Pour comprendre sa grandeur, la grandeur de Dieu, il faut savoir deux choses. Il faut savoir ce que Dieu est et il faut savoir ce que nous sommes. Je me suis basé un peu sur... je dirais une structure d'un prédicateur que j'aime bien qui s'appelle John Piper, que vous connaissez peut-être. Et pour justement placer ces deux éléments-là, soit qui est Dieu, puis qu'est-ce qu'on est. Dans Apocalypse 1, verset 8, pas besoin de tourner. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Évidemment, la caractéristique du Fils, bien évidemment, le Père l'a aussi. Parce qu'il est le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui et de demain. Et nous, dans le fond, on fait partie de sa création. On est dans le monde que lui a créé sous son regard. Donc, chaque règle qui s'y rattache, chaque loi qui régit ce monde physique, est son invention. Ce qui fait que Dieu est le meilleur de tous dans tout. Donc, si tu aimes la force, il est le plus fort. 1 Chronique 29, 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force, la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Si tu aimes l'affection, il est l'amour. 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La discipline, la fiabilité, la fidélité. Il fait tout à temps. Il procrastine jamais. Puis il fait ce qu'il a promis de faire. Psaume 138, 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. J'aime le savoir, l'intelligence, la science. Psaume 147, 5. Son intelligence n'a point de limite. Si comme moi, t'aimes la musique, chose que j'aime beaucoup, ben il a créé toutes les symphonies de la nature. Il a inventé l'appareil pour l'entendre et il a donné l'intelligence pour l'apprécier. Alors, toutes ces passions-là n'ont qu'un seul et unique gagnant qui domine au-dessus de tous, et c'est Dieu. C'est pas pour rien qu'on utilise le mot « idole » dans la culture populaire devant un artiste, un athlète ou toute autre personne publique, parce que ce sont des personnes qui ont su être les gagnants, les meilleurs de leur discipline, et on les admire, même que certains vouent un véritable culte à ces personnes-là. Même que, vous savez peut-être qu'en Grèce antique, les sportifs étaient considérés comme les dieux du stade, des demi-dieux. Mais ces athlètes-là, ces acteurs-là, ces chanteurs, ces personnes publiques-là, ces politiciens-là, sont-ils devant celui qui leur a donné ces talents-là? Sont-ils devant le plus grand d'avant, d'aujourd'hui et pour l'éternité? Dieu, là, il y a une fiche parfaite de infinie victoire à zéro défaite. Ce qui est excellent. C'est excellent. Donc, on peut aussi dire que la louange, c'est dire la vérité sur Dieu. On n'a jamais quelque chose de plus grand que lui. On ne peut pas exagérer ses bienfaits. Quelqu'un qui dit « Je veux louer Dieu d'avoir donné son Fils pour me sauver d'une éternité de perdition sans amour, sans la présence de Dieu », tu ne peux pas dire comme « Wow là, t'exagères ». Non. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce qui fait que toute la gloire lui revient. Il est digne de louange. Il le mérite entièrement. Psaume 147, 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux. Il est bienséant de le louer. C'est tout simple que c'est la chose à faire. C'est la chose à faire pourquoi? Bien, à cause de ce que nous sommes aussi. Qu'est-ce qu'on est? Bien, on peut dire qu'on est des assoiffés. En passant, ce n'est pas parce qu'on ne le sait pas qu'on n'est pas assoiffé. Nul ne cherche Dieu, Romains 3, 11, je suis d'accord, et puis tout à fait. Mais ça n'empêche pas qu'on a besoin de l'eau du salut. Puis des assoiffés qui sont assoiffés, mais qui ne le savent pas, c'est des assoiffés quand même. On a besoin de Dieu. Alors, je suis totalement d'accord avec la phrase de Blaise Pascal qui a écrit au 16e ou 17e siècle, c'était un philosophe de l'époque. Il a dit « Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. » Ce vide-là, bien évidemment, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Il y a seulement lui qui peut combler ce vide-là. Puis ce vide-là, bien, c'est avec notre raison d'être. C'est un lien avec pourquoi. Ce questionnement-là, pourquoi? Alors, sans Dieu, il nous manque notre raison d'être, puis on cherche souvent, par tous les moyens, à remplir le vide, alors que la solution, c'est Dieu. Ce trou-là, là, de la forme de Dieu, on peut mettre n'importe quoi, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est pas nécessairement extrêmement édifiant, mais Elvis Gratton, à un moment donné, qui se retrouve à être à l'hôpital, et là, il y a devant lui des formes géométriques, avec des trous de la forme géométrique. Et dans son intelligence extraordinaire, plutôt que de mettre les bonnes cases à la bonne place, il se met à pousser fort, à pousser. Puis à un moment donné, ça casse, puis ça rentre. Il reste des trous partout, là. C'est tout croche, le triangle est dans le cercle, puis etc. Mais ça rentre à peu près. On fait souvent à peu près la même chose. Puis justement, ça laisse des gros espaces. Puis on le sent. On le sent qu'on n'a pas, on n'a pas quoi? On n'a pas cette plénitude-là. Cette plénitude-là qu'on peut goûter en sa présence. Puis sa présence, on la retrouve dans la louange. Puis ça nous permet de combler ce vide-là qui est en permanence à l'intérieur de nous, si Dieu ne s'y trouve pas. Parce que, tel des Elvis Gratton, on ne sera pas capable de trouver quelque chose d'autre pour bloquer tous les trous. Donc, on fait partie de sa création. On fait partie de son orchestration. Et justement, devant sa gloire, devant son infinie bonté, devant le fait qu'il est si grand, si parfait, devant le fait que c'est lui le grand gagnant dans tout. On peut juste être un peu plus conscient de notre petitesse, de nos péchés et de notre imperfection. Ça ne s'arrête pas là. Parce que justement, Dieu, dans son infinie bonté, dans sa générosité, donne tout ce dont on avait besoin. Et la louange, c'est la reconnaissance. Reconnaissance qui vient du mot reconnaître. Reconnaître dans le sens d'avouer aussi. Oui, reconnaître aussi dans le sens de gratitude, mais aussi reconnaître dans le sens d'admettre. Puis, des moments de bonheur, on peut louer Dieu, mais tout aussi dans les moments plus difficiles. Par exemple, dans la repentance. Je prends exemple sur David qui, au psaume 51, dit « Seigneur, verset 15, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. » C'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc, même dans les moments de difficulté, on peut louer Dieu. On peut louer aussi parce qu'on connaît Dieu. Parce qu'on connaît le fait que Dieu remplit ses promesses. Et parce qu'on connaît le passé, parce qu'on sait qui nous console et qui nous laisse jamais seuls, on peut louer de l'avenir dans un geste de foi. Louange, si on revient à Ésaïe 12, c'est aussi que la colère de Dieu à cause du péché de l'homme est détournée. Détournée sur qui? Détournée sur son Fils. Et c'est de cette façon-là que Dieu apaise sa colère. On ne peut pas avoir accès au Père si ce n'est que par le Fils. Lui qui est la source du salut et par qui on peut avoir le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus le dit lui-même dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que par moi. Alors oui, il y a juste une solution, mais il y en a une. Je pense aussi qu'il faut retenir un autre mot-clé, c'est « gratuit », puis tous ses dérivés, c'est-à-dire « gratuitement ». Sur Wikipédia, quelqu'un qui a écrit dans la définition de « gratuit » ceci, que j'ai bien aimé, ça dit « En théologie, la gratuité désigne le caractère libre et entier du don de la grâce et du salut offert par Dieu. J'aime beaucoup le « libre et entier ». Parce qu'on a vu tout à l'heure, Dieu est le meilleur dans tout. Dieu est le meilleur partout. Donc, il est aussi le meilleur dans la générosité absolue. Puis son don est parfait, complet et totalement volontaire. Je ne sais pas pour vous, mais c'est un grand soulagement pour moi de savoir que la dette que j'aurais dû payer pour mes péchés a déjà été payée par son Fils. Parce que des fois, je me dis qu'au nombre de niaiseries que j'ai pu dire, mon père est assis dans la salle, il peut en commenter, ou faire, je ne sais même pas si j'aurais eu assez d'une éternité de travaux forcés, je pense que non, malheureusement. Il faut louer l'Éternel pour ça. Il faut louer l'Éternel pour ce don-là gratuit. Ce don-là gratuit qu'on ne méritait pas. Dans Romains 10, 9, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Réalise la portée du don gratuit de Dieu. C'est avec raison qu'on se tourne vers lui en louange et en gratitude. Parce que ça a une incidence sur notre vie sur terre et sur l'éternité. Puis comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. On va terminer en prière. Seigneur, on veut te remercier, on veut te louer en toi, puis te remettre nos moments les plus difficiles. Te louer pour tes promesses, Seigneur. On veut te louer aussi pour les moments plus faciles. On veut te louer pour ces moments de bonheur que tu nous donnes, ces moments de grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, ta grâce nous suffit. Je te demande que vraiment chacun d'entre nous ce soir, on puisse s'en retourner à la maison avec cette conscience-là de tout ce qu'on te doit et à quel point tu nous le donnes avec générosité, gratuitement, Seigneur. On veut te remercier, on veut te louer, on veut chanter, Seigneur, ta gloire, ta puissance, toi qui es le meilleur d'entre tous, toi qui as apaisé ta colère qui s'est détournée sur quelqu'un, sur ton fils qui a payé pour nous, Seigneur. On veut te remercier ce soir, puis te demander que tu bénisses notre semaine. Amen.